Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur La Route Inconnue. Votre serviteur, Christophe Jubien, vous y accueille avec joie. La Route Inconnue, je vous le rappelle, est la bimensuelle de Radio Rancière entièrement consacrée à la poésie contemporaine, celle qui s'écrit, se lit et se publie aujourd'hui. La Route Inconnue s'enorgueillit d'être soutenue par la légendaire revue de poésie des charges, dont vous retrouverez en seconde partie d'émission, l'un des piliers, Claude Verset, également chroniqueur dans notre émission. Vous aurez aussi rendez-vous avec les deux poètes, Cécile Guivarch et Patrick Jockel, qui vous partageront généreusement leur coup de cœur du mois. Mon coup de cœur à moi n'est pas un recueil de poèmes, mais un livre de Thierry Casals consacré au haïku et à sa transmission via les ateliers d'écriture que Thierry anime en région parisienne depuis de nombreuses années. On va donc parler poésie et d'une certaine manière éducation dans la demi-heure qui vient en compagnie de l'auteur de « Des haïkus plein les poches » aux éditions Côte, Côte, Côte. Il s'agit, Thierry, on peut le dire, d'un livre atelier.
Oui, tout à fait. D'abord, merci de m'inviter dans votre émission. Oui, un livre atelier, pas un livre pédagogique, pas un livre non plus pour, comment dire, pour apprendre ce qu'est le haïku, pour donner uniquement des règles et pour évidemment transmettre un savoir. C'est plutôt un livre pour donner envie d'écrire. J'anime des ateliers depuis maintenant 20 ans, donc ça fait quand même pas mal d'années. Pas uniquement en région parisienne, mais vraiment dans toute la France. J'ai pu voir ainsi des enfants ou des adultes même, ou des collégiens, des lycéens, dans toutes sortes de régions, des banlieues bien sûr, mais aussi à la campagne, dans le monde rural, en Bretagne ou dans différents endroits. Et ce qui m'intéresse depuis 20 ans, c'est pas d'apprendre une leçon de plus qui serait la leçon du haïku. C'est d'aller gratter un petit peu dans les habitudes de chacun et de voir que finalement il y a des trésors tout près, accessibles, alors évidemment dans notre quotidien, et que chaque enfant, même tout petit, peut y accéder. Alors en ce sens, un livre atelier, pourquoi ? Parce que évidemment on peut y accéder, mais pas forcément en restant assis sur sa chaise avec sa télécommande ou son téléphone et en attendant que ça vienne. Il y a quand même un travail, il y a quand même un cheminement. Et donc, comme dans un atelier, il y a quelque chose qui doit se polir, qui doit se chercher, qui doit se trouver. Et ça, c'est ce que j'essaye avec ce livre, voilà.
Ouais. Alors, je précise pour nos auditeurs que donc vous avez derrière vous une œuvre conséquente, poèmes, récits, textes pour l'enfance et la jeunesse, et donc livre dédié à l'étude et à la pratique du haïku. Mais je rappelle aussi qu'avant de consacrer votre vie en partie au haïku, vous avez passé un doctorat de sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales, avant d'être critique au cahier du cinéma. Mais voilà qu'un beau jour, votre route croise celle du haïku. C'est un choc ontologique. Votre vie a changé du tout au tout, presque du jour au lendemain. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ?
Elle n'a pas changé du jour au lendemain. Je pense que j'étais quand même prêt. On dit toujours qu'on fait des rencontres quand on est prêt. Donc, je n'attendais plus que ça. J'avais fait des études un peu sérieuses, un peu lourdes, un peu intellectuelles, entre guillemets. Et c'est vrai que j'avais besoin de me désintellectualiser, c'est-à-dire de retrouver ce que j'étais enfant. Ouais. C'est-à-dire quelqu'un d'un peu sensible, très ouvert, très perméable, un peu en état fusionnel avec la nature, assez poreux. Ouais. C'est vrai que le monde intellectuel n'est pas quelque chose qui fait travailler la porosité des êtres, mais plutôt l'armature des idées. Ouais. Donc là, d'un seul coup, j'ai redécouvert ce que j'étais, en fait. Hein. Ouais. Et ça a été vraiment un coup de foudre, c'est vrai. Sans cette rencontre, je pense que je n'aurais jamais basculé dans l'écriture, parce que le haïku, c'est vraiment l'écriture, mais dans toute sa simplicité. C'est-à-dire, c'est l'écriture à nu, c'est l'écriture qui veut pas se mettre en avant, démontrer ses effets, afficher son style. C'est vraiment une écriture intériorisée et complètement dépouillée. Ouais. Voilà. Donc sans cette rencontre, probablement, oui, je serais pas là. Mais je pense que j'étais prêt, j'étais en demande, et en fait, voilà, je crois aux coups de foudre, je crois aux rencontres, mais en fait, on les prépare.
Oui. Vous m'avez gentiment signé votre livre. je vais être très indiscret pour moi, finalement, en lisant votre dédicace sur les sentiers du haïku où tout, toujours, arrive pour la première fois. C'est pas un des secrets du haïku, ça, finalement. On voit quelque chose, mais on le voit à chaque fois pour la première fois.
Et bien sûr que si. Ouais. Je crois que d'ailleurs, c'est le secret de la vie, c'est le secret de. C'est ce qui fait qu'un nouveau-né est si extraordinaire, c'est-à-dire qu'il voit le monde, il le découvre, il le sent, il le ressent pour la première fois. Donc il y a une intensité, il y a une présence, il y a une délectation, chaque moment devient précieux, des choses même anodines qui nous-mêmes nous semblent complètement dérisoires ou inintéressantes deviennent de véritables trésors. Je vois mes enfants, j'ai deux enfants, mais quand ils étaient bébés, ramasser une miette de pain dans l'interstice de deux lattes de parquet, et je pense qu'ils avaient trouvé là, ou il avait trouvé là, un véritable trésor. Alors, je crois que les animaux aussi vivent comme ça. Alors, je veux pas nous comparer à des animaux, mais les animaux sont dans une intensité du présent. Et on sent bien, quand on voit un oiseau, quand on voit un chat, quand on voit même parfois un insecte, on sent bien qu'ils sont pleinement dans ce présent. Et le mot présent a un double sens, c'est-à-dire le fait d'être dans l'instant présent, mais aussi le cadeau.
Oui,
je suis convaincu qu'effectivement, cette première fois, c'est ce qui pourrait peut-être nous guérir du fait qu'on saccage le monde, parce qu'on le saccage parce que on croit le connaître, on croit le posséder, on croit tout savoir, et du coup on passe à côté et on saccage, quoi. La première fois, il est évident qu'on est beaucoup plus attentif.
Il y a un petit proverbe zen qui dit « qui prend, perd ». Le haïku ne saisit rien, finalement, ne prend rien. Il est...
Oui, il a les mains ouvertes, oui. Donc il accueille tout, mais il laisse passer, il laisse les choses glisser, il ne cherche pas à posséder. D'ailleurs, une des clés du haïku, à mes yeux, c'est de ne pas chercher à enfermer dans trois vers un secret, une énigme, ou une connaissance, ou même une expérience. Par exemple, ce haïku que j'aime beaucoup de Ino Sojo, donc un auteur japonais, un poète japonais. La main refermée sur quelques graines, je sens battre la vie. Alors, ce que j'aime beaucoup, la main refermée sur quelques graines, je sens battre la vie. Donc, on pourrait dire, oui, mais il tient les graines. Mais en fait, au début, on se dit, mais pourquoi il sent battre la vie? Est-ce que c'est ces graines qui auraient une petite pulsation secrète et qui capteraient la pulsation de vie qui va se déployer quand ces graines vont germer et devenir une plante ou un arbre, ou je sais pas quoi. Ou est-ce que finalement c'est pas ses propres mains qui tiennent ces graines et qui du coup le sang circulant entre ses mains, on sent le poète sent la pulsation de vie qui est à l'intérieur de lui-même en fait.
Ouais.
Qui habite ses mains. Donc qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est dans les graines? Est-ce que c'est dans sa main? Est-ce que c'est pas dans la pulsation entre les deux?
Oui.
Donc on s'aperçoit qu'effectivement, le haïku cherche la pulsation, l'hésitation, le dialogue entre les mondes. Il ne cherche pas à dire, voilà, c'est ici, c'est ça, point à ligne, circuler, il n'y a rien à voir. Dans les haïkus, très souvent, je pense qu'une des clés, c'est de faire attention à la dernière phrase ou le dernier morceau, le dernier fragment du poème, de ne pas appuyer, de ne pas expliquer, bref, de ne pas fermer le poème.
Mmh.
Je donne un exemple écrit par un enfant. Je marche sur des feuilles rouges. Alors, évidemment, quelqu'un qui voudrait expliquer dirait « je marche sur des feuilles rouges », c'est l'automne, par exemple.
Mmh.
Mais en disant « c'est l'automne » ou « vive l'automne », il fermerait le poème, il l'expliquerait. Cet enfant qui s'appelle Cédric, qui vivait à Clamart, voilà ce qu'il a écrit. « Je marche sur des feuilles rouges, un danger agréable. » Donc là, on ne sait plus où on est.
Oui.
On est dans le rouge du danger, on est dans le agréable, et du coup on hésite, et on est dans la vie. Voilà la différence.
Je reviens à votre livre, je rappelle son titre, « Des haïkus pleins les poches » publié aux éditions Côte, 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 très joli nom. Livre remarquablement illustré par Julie Van Wezemel. On est introduit dans ce livre par une sorte de maître de haïku, mais un maître extrêmement, finalement, si j'ose dire, inoffensif, un maître qui m'a fait penser, moi, à Ryokan, l'un des grands personnages du haïku japonais. Et c'est cet homme qui va nous ouvrir les portes du haïku. C'est un petit coup de génie d'avoir, finalement, ce fil rouge, c'est un personnage.
Ben, c'est-à-dire qu'en fait, quand l'éditrice des éditions Code, c'est une petite maison d'édition, mais qui grandit actuellement, qui est située en Belgique. Donc, quand l'éditrice Odile Flamand elle savait que j'avais cette idée en tête, mais m'a proposé d'écrire un livre où je pourrais, comme ça, transmettre un petit peu ma passion du haïku aux enfants, mais aussi aux adultes et aux débutants de tout âge. Tout de suite, j'ai compris qu'il y avait un danger, ça serait de me mettre en scène moi.
Oui.
Voilà Thierry Casals ce qu'il a vécu, parce qu'évidemment, dans ce livre, il y a beaucoup d'expériences de mes ateliers, il y a beaucoup, tous les détails, à 99% sont des choses vécues. Il y a beaucoup de haïkus écrits par des enfants lors de mes ateliers. Donc, le gros risque, ça aurait été de me mettre en scène moi, et du coup, de me transformer en une sorte de maître d'atelier, mais trop centré sur mon propre nombril. Donc, l'idée, elle m'est venue assez rapidement, c'était de trouver un personnage imaginaire dans lequel je pourrais me glisser, évidemment, qui correspondrait à beaucoup d'aspects de ma personnalité, mais pas qui soit pas moi. Et donc, ce personnage un peu imaginaire de vieux poète, un peu qui vit dans une cabane, qui est un peu à l'écart, c'est vrai que c'est la figure du poète et du poète à la Ryokan,
oui.
Mais même beaucoup de poètes du haïku sont des gens qui ont une vie d'errance,
oui.
De voyage, qui ont une vie, pas justement une vie où ils ont été des professeurs, où ils ont été des sortes de gens qui avaient une place officielle dans la société. Je rappelle qu'Issa, par exemple, était un simple paysan.
Oui.
Donc il m'a semblé que c'était évident qu'il fallait trouver quelque chose comme ça. Et de même que j'avais du mal à me dire, mais bon, il va rencontrer des enfants, mais comment faire je veux le faire rencontrer des classes. Et très rapidement, j'ai eu l'idée d'avoir deux jumeaux, un garçon et une fille. Alors, pour moi, c'est un peu comme une sorte de, voilà, tous les enfants possibles. Dans ces deux enfants, il y a tous les enfants possibles, et il y a toutes les potentialités. Et finalement, dans leur dialogue, dans leur échange, j'ai trouvé que c'était un moyen très, très fluide. Et non pesant, non doctrinal de transmettre cette petite flamme.
Oui. Alors, vous
le haïku étant léger, il faut quand même s'en approcher avec des chaussures très fines.
Alors, on peut le lire finalement comme un récit, comme un roman, mais avec des pages blanches ou des paragraphes blancs qui n'attendent finalement que la plume du lecteur.
Oui. Ben ça, c'est aussi une idée qui m'est venue assez rapidement. C'est-à-dire un livre qui invite à écrire ne pouvait pas être un livre d'un seul bloc dans lequel le lecteur serait qu'un lecteur. Il fallait à un moment donné lui poser des questions, l'inciter à intervenir et donc même à se glisser dans le livre en écrivant. Alors je connais des gens qui me disent « Oh là là, mais on peut pas écrire dans un livre ». Alors, ils peuvent toujours avoir un carnet et éventuellement écrire ou noter des choses à côté.
Oui.
Mais ce livre est vraiment présenté comme pouvant inviter les lecteurs à écrire. Alors je pose des questions, il y a des jeux, il y a des petites, par exemple, un jeu que je trouve intéressant, qui est celui d'écrire avec une gomme. J'ai pris des haïkus classiques, ou plus ou moins connus, ou parfois pas connus, et j'ai rajouté des mots, des adjectifs, j'ai rajouté un certain nombre de mots. Et j'invite le lecteur à dire, découvrez... quel haïku existait à l'origine, grattez avec votre gomme et cherchez. Je pense ce genre de petit exercice, plutôt de dire aux gens, attention, respectez ces syllabes, faites comme ci, faites comme ça, je trouve que par ce genre de jeu, on peut s'amuser et on peut découvrir en fait l'essence du haïku qui est d'écrire par les creux, par les vides, pas uniquement en ajoutant des mots.
Ouais,
et c'est vrai que le livre est rempli du coup de blanc, enfin, il y a quand même 250 pages, et je pense qu'il y a quand même un certain nombre de mots. C'est pas que des pages vides. Mais il y a une place au vide, de même que le vide est présent dans le cosmos, dans les coquilles d'escargots, dans tout, quoi. Il y a du vide, et je trouve que nos livres mériteraient de temps en temps, et surtout les livres qui se veulent des ateliers ou des ouvrages permettant de découvrir le haïku, ben, ont besoin de respirer. C'est très important.
Alors, on relève au fil des pages de vraies réussites. Hein, certaines productions enfantines rivalisent carrément avec celles de Haijin confirmées. Comment cela est-il possible ?
C'est possible parce que de même que Basho, qui est quand même un des pères du haïku, a toujours pensé qu'il fallait écouter, qu'il fallait faire écrire des haïkus à des enfants tout petits, des bambins hauts de trois pommes. Enfin, vraiment, il disait vraiment que c'était important. Alors, lui, qui est quand même un maître assez considérable, qui a eu toute une école, qui a eu des élèves, des disciples, pourquoi il disait ça ? À mon avis, il disait pas ça uniquement pour faire plaisir, c'est qu'il avait compris que cet état d'enfance, c'était ça qui pouvait écrire en nous. C'est-à-dire ce moment où on n'est pas encore quadrillé, cloisonné, enfermé dans des certitudes, qui fait qu'on a une extrême sensibilité, qui fait aussi que du nouveau peut apparaître. On n'est pas rabâché des choses déjà connues, déjà maîtrisées. Et donc c'est vrai que c'est en revenant à cet état d'enfance qu'on peut arriver, alors non pas en imitant les enfants, il ne s'agit pas de sucer son pouce et de mettre des culottes courtes et puis c'est bon, on va écrire. Mais c'est un état qui est en fait un état dans lequel on va se débarrasser de toute une série de certitudes, de cuirasses, de façons d'écrire qui nous sont évidemment qui nous montrent qu'on est doué, mais qui ont tendance à nous enfermer, à nous faire répéter toujours les mêmes choses. Et alors du coup, les enfants sont capables, par exemple, je vais en citer deux ou trois là, d'écrire des petites merveilles. 10 jours que je marche et les nuages ne bougent plus.
Magnifique.
Elle est triste, la barrière de bois qui me sépare du loup. Alors plutôt de dire que elle, cette jeune fille était triste, s'appelait Louisa, parce qu'elle aurait aimé peut-être caresser ce loup qui était de l'autre côté de la barrière, elle projette sa tristesse sur la barrière de bois. Alors ça pour moi c'est vraiment l'œuvre de grands poètes parce que ils sont pas dans la description, ils disent pas « Ah j'ai vu un loup et je suis triste parce qu'il est loin ou il est au zoo ». Il y a une véritable reconstruction du monde qui devient un monde entièrement ressenti pleinement, à fond, et où tout devient, alors du coup, sensible, précieux, vivant. Encore ce dernier, que je trouve extraordinaire, écrit par un jeune de Bretagne, « Un barrage, démonte-le d'une seule pierre, enfin le bruit. » Alors on voit bien ce jeu d'enfant de mettre des petits cailloux sur une rivière pour faire un barrage, et puis à un moment on enlève, et il y a le bruit, le bruit de l'eau. Mais j'ai envie de dire, mais enfin la vie.
Le bruit de la vie, d'ailleurs.
Oui, et on peut remarquer que c'est donc des jeux d'enfant chaque fois, c'est des situations d'enfant, hein, des enfants qui marchent, qui découvrent, qui voient un loup, ou qui jouent avec au bord d'une rivière. Mais ce sont des paroles de... qui ont une grande profondeur, des paroles presque de sages, qui ont conscience de ce qui est important dans la vie, de ce qui est vraiment important dans la vie. Oui. Et donc, je pense que dans un atelier, il ne faut pas se dire « Bon, je vais leur apporter le haïku, je vais leur donner la vérité. » C'est plutôt « Ils l'ont déjà, ils sont déjà là-dedans, il faut juste le révéler, il faut juste les aider à accoucher de ça. » Sortir parfois de certains clichés enfantins ou de certaines images un peu faciles, hein, genre le joli bois, le joli printemps, enfin tout est merveilleux, et aller dans l'authenticité de leur vécu. Moi, j'ai une fois un enfant qui m'a raconté une histoire, parce qu'il c'était un enfant qui avait pêché, il avait pêché un grand poisson, ça s'appelle le silure, c'est un des plus grands poissons de rivière, un immense poisson-chat, et tel quel il me l'a dicté, mais même pas en une minute, hein. Il m'a dicté ce qu'il avait vécu et il m'a dit « L'énorme poisson à moustache, j'aimerais le garder dans ma baignoire. » Donc là, on est dans des choses vraiment vécues, mais on est dans du fantastique, on est dans quelque chose d'exceptionnel. Et on se dit « Mais en fait, ce qu'il veut garder dans sa baignoire, c'est quelque chose de presque mythologique. C'est comme un dragon, c'est comme une présence inouïe. » Et il s'identifie complètement à ce poisson qu'il a pêché. Voilà, donc là, on est dans quelque chose de très fort. Et Et j'ai vraiment l'impression que aller porter le haïku dans des classes ou dans des bibliothèques, c'est pas remplir des cerveaux vides. C'est plutôt aller, on donne un petit coup comme sur un bol, et évidemment ça résonne immédiatement. Hein.
Oui.
Mais pour ça, il faut avoir une grande confiance dans l'enfance, ce qui me semble notre société, qui est quand même assez infantile, a perdu cette confiance. Elle aime l'enfance comme un moment qui est plaisant, mais on voit pas en quoi l'enfant est porteur d'une telle force, d'une telle puissance d'existence.
Une dernière chose qui m'a aussi beaucoup plu et qui me plaît beaucoup dans le haïku, c'est votre livre met en parallèle les haïkus de maîtres, hein, Issa, Basho, etc., des haïkus de contemporains, des haïkus issus d'ateliers, et ce qu'on sent, ce qui est formidable, c'est cette espèce de continuité finalement dans l'histoire du haïku, comme si une chaîne invisible reliait les âges entre eux, une chaîne de haïkus finalement qui relie les âges entre eux. C'est ça qui est extraordinaire aussi.
Ah oui, merci, mais c'était aussi important de pas classer les haïkus par catégorie. Alors voilà les haïkus japonais, voilà les haïkus que moi j'ai écrits, voilà les haïkus écrits par des enfants, voilà écrits par des poètes contemporains, parce que je rends hommage à une série de poètes des fois disparus, comme Jean-Yves Malinaud, comme des gens moins connus, Vincent Delfos, des gens que j'ai croisés, mais aussi certains poètes toujours vivants. Contemporain. Et pour mon but, c'était pas de faire un mélange où tout se mélange, mais de montrer qu'en fait, une des beautés du haïku aussi, c'est qu'il ricoche à travers les âges, à travers les frontières, et c'est que c'est pas quelque chose qu'on peut classifier. Alors, comme on a tendance à faire avec la littérature en temps normal, c'est-à-dire il y aurait la grande littérature, alors il y aurait les grands auteurs, et puis il y aurait les petits essais, les petits brouillons de nos enfants, de nos écoliers. Dans le haïku, on peut, ce n'est pas toujours le cas, mais on peut avoir quelque chose de beaucoup plus fluide, où un maître va se mettre à hauteur d'enfant, et un enfant peut se mettre à hauteur de maître.
Ouais.
Alors, je trouve que c'est quelque chose qui amène quand même une grande créativité, une grande vitalité, et peut-être que notre société aurait besoin de quelque chose qui circule plus,
ouais,
qui soit moins classifié par ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, ceux qui écrivent, ceux qui n'écrivent pas. J'ai eu le cas, par exemple, d'un enfant qui avait vraiment des difficultés scolaires et je pense même sociales, qui m'a quasiment dicté ce haïku. Donnant du pain, mon cœur voyage dans le cœur des mouettes.
C'est absolument.
Et ces mots, mais presque à la seconde. Ouais. Donc je me dis, si un enfant est capable, même à problème, même un enfant qui a des grosses difficultés scolaires est capable d'envoyer ces mots comme ça dans l'instant présent, peut-être que notre monde et notre société a encore un avenir devant lui ou devant elle. Hein.
Ouais.
Voilà.
Thierry, merci beaucoup. Merci.
Merci,
je rappelle le titre de votre livre, Des haïkus plein les poches, Thierry Casal et Julie Vesmael, Côte édition, on le trouve évidemment chez son libraire, ou si on n'y trouve pas, on peut évidemment le commander.
Sur le site des éditions Côte, mais évidemment chez un libraire. Je dis juste un dernier petit mot qui est quand même intéressant, c'est que l'éditrice Odile Flamand a voulu le même livre, en faire deux éditions, une édition assez belle, avec un très beau papier, et voilà, un livre tout à fait qu'on peut mettre dans sa bibliothèque, mais aussi une édition qui est tout aussi belle, mais avec un papier plus souple, et un prix vraiment très abordable, je crois autour de 12,90 €, pour justement dire aussi que la poésie, ça peut toucher des personnes comme ça, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens.
Ouais.
Et c'est très important aussi, ça.
On va écouter un peu de musique et ensuite, eh bien, je plongerai et je vous ferai plonger, chers auditeurs et auditrices, dans les secrets de ce livre des haïkus plein les poches. Même si je vis seul au milieu des pins, n'allez pas croire que je sois complètement isolé. Le facteur m'apporte, une fois par semaine, des lettres du monde entier. Il y a aussi un voisin jardinier qui me donne, selon les jours, 3 aubergines, 2 tomates ou un navet. Et puis, il y a les jumeaux, une fille et un garçon qui passent toutes leurs vacances d'été dans le coin. Leur maison est en contrebas de l'autre côté de la lande, mais ils adorent grimper jusqu'ici. J'aperçois souvent leur nez collé à la vitre quand j'écris. On dirait que c'est ça qui les attire, les mots. Quand je leur lis mes poèmes, ils ouvrent grand les yeux, froncent les sourcils, avant de s'écrouler de rire. Je ne connais pas plus beau compliment. On organise aussi des goûters improvisés avec des amandes et des noisettes que nous cassons avec des pierres comme une parfaite petite tribu préhistorique. Leurs parents les laissent venir quand ils veulent. Ils me connaissent bien. Je leur récitais déjà des poèmes quand ils étaient eux-mêmes enfants. Finalement, je m'aperçois que j'ai été plus bavard qu'une pie. C'est si vaste, une vie. Surtout quand on la savoure, sans en perdre une miette. Mais, pour parler de soi, il y a une toute autre manière, beaucoup moins longue qu'une liste. Fermez les yeux et écoutez. Cabane dans les pins, pour seule adresse, l'odeur de résine. Cabane dans les pins, pour seule adresse, l'odeur de résine. Par la fenêtre de la cuisine, une vague me salue de la main. Par la fenêtre de la cuisine, une vague me salue de la main. Mon vieux dos contre le vieux pain, fraîcheur du soir. Mon vieux dos contre le vieux pain, fraîcheur du soir. Chez moi, quand je n'ai plus rien à lire, les murs blancs. Chez moi, quand je n'ai plus rien à lire, les murs blancs. Sans m'attendre, mes sandales sont sorties admirer l'arc-en-ciel. Sans m'attendre, mes sandales sont sorties admirer l'arc-en-ciel. Cette autre façon de raconter son quotidien porte un nom un peu bizarre qui vient du Japon, le haïku. Voilà les jumeaux. Il fait gris aujourd'hui. Ils devaient tourner en rond dans leur maison. C'est l'heure du goûter et ma provision de fruits secs est justement à sec. Bon, et si à la place, nous partagions quelques haïkus? La première fois que je leur ai parlé de ces minuscules poèmes, les jumeaux m'ont dévisagé sans comprendre. Haïkoi? Haïku! Cela s'écrit avec un U en français, mais ce mot d'origine japonaise se prononce haïku. Désormais, chaque fois qu'on se voit, ils m'en réclament de nouveau. C'est souvent le point de départ de passionnantes discussions. Silence, le cri des cigales creuse les rochers. Silence, le cri des cigales creuse les rochers. À votre avis, les enfants, de quoi parle ce poète japonais? On entend le silence, et dans ce silence, le cri des insectes. Le chant des cigales est si fort qu'il envahit tout, il traverse même les pierres. Oui, c'est cela, c'est comme si nous devenions une vaste oreille habitée par ce seul son. Vous le voyez, on écrit des haïkus d'abord avec des sensations. La vue, L'odorat, le toucher, le goût, l'ouïe. Ces cinq sens nous permettent de percevoir tout ce qui nous entoure. Le bzzz agaçant des moustiques ou le chant clair des cascades, le baiser brûlant des orties ou le velours soyeux d'un cou de chat. Ce sont les fenêtres à travers lesquelles nous recevons des nouvelles du monde. Tenez, voici un autre exemple, écrit non pas par un vieux poète japonais, mais par une jeune élève, Romane, de l'école primaire de Courbevoie.
La lampe, accrochée au plafond, sent la fraise. La lampe, accrochée au plafond, sent la fraise.
Oh ben facile, ça parle d'une odeur. En même temps, je me demande comment une lampe peut sentir la fraise. Peut-être éclaire-t-elle une table où la fillette est en train d'en manger un plein bol. Ou alors la lumière qui brille au plafond est rouge et lui rappelle la couleur et le parfum de ce fruit. Ah, qui sait, les enfants, les haïkus, n'ont pas une seule et unique explication. Il y a autant de façons de les comprendre qu'il y a de lecteurs. Se promener à travers leurs mots et leur silence nous laisse une grande liberté. On peut les lire dans tous les sens. Revenons au Japon, voulez-vous ?
La douce chaleur du moineau, serrée dans mes mains, puis relâchée. La douce chaleur du moineau, serrée dans mes mains, puis relâchée.
Alors, que ressentez-vous cette fois-ci à la lecture de ce haïku de Osai ?
On sent des petites plumes douillettes au creux de nos mains.
Le poète a recueilli un moineau, il était peut-être blessé. Il le réchauffe, le réconforte, lui redonne un peu de force avant de lui rendre sa liberté. Ah ouais, ben moi j'ai l'impression que c'est l'inverse. C'est le moineau qui réchauffe le poète et lui offre un peu de sa légèreté. Un instant, le poète se sent moins seul et... quand il relâche l'oiseau, c'est comme s'il s'envolait avec lui. Oh, 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 bravo les enfants, vous avez lu « Avec votre cœur », en ne restant pas à l'extérieur des mots, mais en les faisant vivre à l'intérieur de vous. Ici, Osai célèbre le « toucher », un sens guère à la mode de nos jours, les gens restant de plus en plus à distance derrière des écrans. C'est le cas aussi des oreilles. Prendre vraiment le temps d'écouter est de plus en plus rare. C'est pourtant une merveilleuse façon de voyager, de s'en changer de place. Tiens, ce haïku de Louis Raoul. Passant devant l'école, je m'arrête pour écouter l'heure de la récréation. Passant devant l'école, je m'arrête pour écouter l'heure de la récréation. Léna, d'une école primaire de Condé-sur-Sarthe.
Dans la forêt, ses pas résonnent. La biche me surveille. Dans la forêt, ses pas résonnent. La biche me surveille. Papillon, posé sur mon oreille, pour mieux ne rien me dire.
Papillon posé sur mon oreille
pour mieux ne rien me dire.
Vélo contre le mur,
la maison écoute ses récits de voyage.
Vélo contre le mur, la maison écoute
ses récits de voyage.
Quel bonheur, marcher pieds nus sur les trottoirs chauds d'Atlanta.
Quel bonheur, marcher pieds nus sur les trottoirs chauds d'Atlanta.
Les montagnes lointaines se reflètent dans les prunelles de la libellule.
Les montagnes lointaines se reflètent dans les prunelles de la libellule. Toute une journée sans un mot, le bruit des vagues. Toute une journée sans un mot, le bruit des vagues. Buvant du thé, j'ai senti qu'il y avait un dragon. Buvant du thé, j'ai senti qu'il y avait un dragon. Thym écrasé entre les doigts. Unique rencontre d'aujourd'hui. Thym écrasé entre les doigts. Unique rencontre d'aujourd'hui. Elles font aussi partie de mes provisions d'hiver, ces lumières d'automne. Elles font aussi partie de mes provisions d'hiver, ces lumières d'automne.
Voilà, c'était vraiment quelques extraits des toutes premières pages de ce livre vraiment, vraiment magnifique de Thierry Casals. Des haïkus plein les poches, un livre atelier indispensable pour qui veut s'initier au haïku ou se parfaire, car on n'a jamais, jamais fini d'apprendre. C'est l'une des grandes leçons de la vie et une de ses grandes joies. Voilà, on écoute un peu de musique, après quoi, eh bien, ce sera place à nos amis chroniqueurs. Voilà, c'était entre tradition et modernité, le travail de Chieko Mori, musicienne japonaise pleine de talent. Un homme plein de talent, c'est Claude Verset, bien sûr, poète, pilier de la Revue des Charges depuis des années, c'est notamment lui le webmaster de la Revue des Charges, mais il est aussi, et nous mesurons notre chance de l'avoir, chroniqueur mensuel sur La Route Inconnue.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Christophe. Prose et variation, tel était le titre du dernier article, au point si récent cet article, il date d'octobre 2016, que je consacrais à Jean-Claude Martin sur le site de la Revue des Charges. Pour qui suit la démarche du poète depuis ses premiers écrits, c'est bien l'impression que donne la majorité de ses livres de poésie. Une suite de variations autour des sentiments et humeurs d'un individu mâle, mélancoliquement normal, poussant les jours devant soi comme détritus au caniveau, ça c'est une citation, concluant néanmoins pour solde de tout compte, et à un jeu de mots près, c'est le titre de son premier livre, hein, souvenez-vous, pour solde de tout compte, 89, le dé bleu. Concluant donc dans Vie patinée, l'un des livres dont j'ai à rendre compte aujourd'hui, que ça aurait pu être pire. Épitaphe qu'il suggère d'écrire sur sa tombe. Une fois de plus, en effet, dans ses Vies patinées, parues au carnet du Dessert de Lune, avec accompagnement abondant et parfois inégal dans ses réussites de la fidèle Claudine Gou, Jean-Claude Martin se fait encore une fois comptable de sa vie, en dresse le bilan. État stationnaire, nous rassure le poème final. Bref, toute une vie bien ratée, pour emprunter à Pierre Autin-Grenier, un autre champion du désenchantement auquel on pense souvent. Jugez-en par ce poème de Jean-Claude Martin. Notre vie tient de la flèche et du cerceau. Nous partons vers un but, mais la plupart des vies passent à côté de la cible ou marquent pas loin de zéro. Car nous ne suivons pas une trajectoire rectiligne. Nous n'arrêtons pas de tourner sur nous-mêmes comme un cerceau. Nous sommes sur un manège qui s'échappe tout à coup de son axe et part en tourbillonnant. La peur et la joie des enfants. Quand nous revenons, vieux gamins amers et nostalgiques, nous aimerions tant lancer une autre flèche. Car quoi ? Vide. La lecture de cette prose nous rappelle que si cette poésie traduit amertume et nostalgie, elle retient dans le même temps et séduit le lecteur par une constante autodérision qui le plus souvent joue, à moins qu'elle ne travaille, à l'instar du bois de l'armoire, pour me référer à l'auteur, joue avec les mots. Vie patinée ne dément pas cette propension, laquelle se concentre encore davantage, devient moteur, dans un ouvrage paru simultanément fin 2019, « Ne vous abaissez jamais ». ABC s'écrivant à l'aide des trois premières lettres de l'alphabet. « Ne vous abaissez jamais » chez Gros Texte. Le livre divague, suivant l'ordre alphabétique, à travers locutions proverbiales et expressions familières, où le faiseur de bons mots et calembours qu'est Jean-Claude Martin donne libre cours, à bâton rompu, à bras ouverts, si ce n'est à la grâce de Dieu, ce sont des titres de certaines de ses rubriques, donne cours à des jeux de langage de haute intensité. Je me suis quant à moi arrêté, par exemple, la rubrique Martin. Martin, à éviter coûte que coûte, et comme nom et comme prénom, y est-il conseillé. Et le lecteur de longue date n'a pas oublié que, malgré tout, plus d'un âne s'appelle Martin. C'est le titre d'un de ses livres, 88, édition Verso. Et je me suis arrêté également, plus longuement, à Poésie, désinguée avec une verve féroce, selon la formule bien connue, qui aime bien, châtie bien, mais brûler ce qu'on a adoré ne détonnerait pas non plus. Je lis Poésie, à fuir. Comme auteur et comme lecteur. Poésie est morte, tuée par la rentabilité littéraire, bouffée par les chanteurs débiles et les professeurs gloseurs. Les hommes auront toujours besoin de poésie. C'est la forme la plus haute de l'écriture. La poésie sauvera le monde. À mes 300 000 romans vendus, je préfère trois vers d'un poème. Allez, 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 arrêtons les mensonges, les cataplasmes et les fausses mystiques. Poésie est dans une impasse, un naufrage. Sa mort préfigure le triomphe de l'argent et de la pollution de la terre. Je la hais. Elle a tué mes rêves. Et pourtant, je l'attends encore, chaque soir, au coin de la rue. Dieu me pardonne d'avoir été si con. Eh bien, ceux et celles que ces propos n'auront pas découragés liront de Jean-Claude Martin « Vie patinée » aux éditions Les Carnets du Désir de Lune, qu'on trouve à Bruxelles, 67 rue de Venise, qu'on acquiert pour 14 euros. Et du même auteur, « Ne vous abaissez jamais », ça c'est chez Gros Texte, qu'on trouve à Fonfourane, 05 380, Châteauroux-les-Alpes, et ça vaut 7 euros. Allez, à bientôt.
Dans 4 semaines, très précisément, cher Claude Verset, nous allons retrouver sans plus tarder notre amie Cécile Guivarche. C'est un peu la course aujourd'hui. Cécile Guivarche, poète, elle aussi, on ne la présente plus, mais aussi animatrice d'un excellent site Terre à Ciel. Et Cécile nous revient avec un coup de cœur.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. Donc Maud des éditions des Lisières m'a confié un très beau livre qui est paru en juin 2019 et qui s'appelle « Ma terre ensemencée ». Donc c'est en fait un livre bilingue, anglais et français, qui a été écrit par Jean Pera Pemberton. Elle a, pour la version française, elle a été aidée par Catherine Piron-Pera. Voilà, c'est une version bilingue très intéressante. Alors pourquoi ce livre m'a particulièrement intéressée, c'est que ce sont des poèmes écrits sur une très longue période, une période qui couvre 1955 à 2017. Donc l'auteur, elle est née dans une ferme en Angleterre et elle s'est installée en France à l'âge de 25 ans. Et ce livre, Ma terre ensemencée, c'est en fait le témoignage de sa vie à partir de son installation en France. Les tout premiers textes, elle évoque son départ justement vers la France et ce que cela représente d'inconnu pour elle. Ça, c'est vraiment au tout départ. Et après, donc, le livre se déroule avec sa vie, la vie qui passe avec la naissance d'un enfant, mais aussi donc tous ces souvenirs qui font la vie. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que on s'aperçoit que les poèmes en fait laissent une trace. Ils montrent comment combien nous sommes fragiles et comment nos traces en fait pourraient bien disparaître. J'aime bien un petit vers, par exemple, qui dit ainsi: l'herbe repousserait rapidement, effaçant nos traces. Donc voilà, ça montre bien que on a pourtant des traces, qu'on vient tous de quelque part, d'un désir. Quelqu'un nous a mis au monde par désir, et nous laisserons aussi des enfants, mais comme le dit l'auteur, combien d'enfants auront les enfants de nos enfants? Donc c'est vraiment un livre sur la réflexion autour de notre passage sur Terre, de la possibilité que nous aurons ensuite à poursuivre, la trace de nos disparus. Et moi, vraiment, c'est un livre que je recommande. Mode des éditions de Lisière m'a permis de reproduire dans le prochain numéro de Terre à Ciel les poèmes en anglais, en français. Vous pourrez en découvrir quelques-uns, mais je vais vous en lire de suite. Alors, un poème écrit en août 1965. Fougère. Fougère comme aux endroits où j'allais enfant. Un chien aboie. Les trembles sont pareils. Ils bruissent comme la pluie, comme l'eau. Je suppose que la mère de ma mère trouvait des primes vertes. Depuis combien de siècles les femmes de ma lignée viennent chercher du réconfort dans les bois? Telle femme s'est enfuie. Son mari ou son amant s'en est allé avec une autre, a eu des enfants. En s'ouvrant, les châtaignes font un bruit sec. J'y trouve du réconfort. Ne trouvant pas le sommeil, je suis montée jusqu'au bois. Un arbre qui pousse, ça vaut un homme. La terre est humaine. Dans l'odeur humide, parmi les feuilles de l'automne, je m'allonge et je m'endors. Voilà un deuxième poème pour la route. Donc un poème qui a été écrit en septembre 1970. Nous sortons de la maison, mes deux enfants et moi. D'autres se joignent à nous. Pendant que nous marchons le long du chemin, à travers les vergers, jusqu'à atteindre les choux, les lapins et les canards à l'arrière des jardins, et les innombrables chatons cachés sous les voitures, à l'abri des enfants et de leurs câlins, jusqu'à atteindre la route qui s'élargit, la cloche n'a pas encore sonné l'heure qui indiquerait notre retard. Je ne suis plus l'enfant que j'étais. Je reprends maintenant le même chemin jusqu'à la maison vide, comme ma mère sans doute, laver la vaisselle, faire le lit, ranger les vêtements et attendre que les enfants reviennent peupler l'espace de leur avenir. Voilà, donc c'était Ma terre ensemencée de Jean Perra Pemberton aux éditions des Lisières, à découvrir sans plus attendre. Je vous dis à très bientôt, au revoir.
Ce qui est formidable, c'est que nos chroniqueurs et nos chroniqueuses ont des goûts sûrs, donc vous pouvez y aller, vous pouvez acheter ces livres, vous ne serez sûrement pas déçus. Il me reste quant à moi à tirer ma révérence, comme on dit. Je ne le ferai pas sans vous avoir mis entre les mains expertes de notre ami Patrick Jokel, encore un poète, par ailleurs l'animateur d'une revue qui s'appelle Kern et qui vous permet, eh bien, tous les trois mois de découvrir un panachage de poètes contemporains sur des thèmes divers et variés. Patrick Jokel nous revient lui aussi avec une provision de nouveaux livres. Je vous embrasse bien fort, comme du bon pain, et je vous dis à dans 15 jours sur la route inconnue.
Eh bien, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui d'un livre qui est paru fin 2019 aux éditions Gros Texte. Pour le petit rappel, les éditions Gros Texte sont situées dans les Hautes-Alpes, du côté d'Embrun, à Châteauroux-les-Alpes pour être exact, et sont menées par Yves Artufel. Il s'agit d'un livre de Thierry Roquet, dont le titre est « À la périphérie du monde » et entre parenthèses « Par la ligne 13 du métro ». Donc nous sommes à Paris, et pour être exact, donc c'est la ligne 13 du métro, côté sud, de l'autre côté du périphérique. J'aime beaucoup l'entrée du premier poème de cette périphérie, appel au souvenir des dinosaures qui, il y a des millénaires de ça, mammouths, tricératops, tyrannosaures et autres vélociraptors vivaient ici sans se douter une seule seconde un jour, quel con, ni qu'ils ressusciteraient d'une certaine façon à quelques pas de la verte prairie d'antan au troisième étage de mon appartement dans un poème du 5 janvier 2016 et qui commencerait comme ceci. Welcome home, buddies. Même lieu, différentes époques, différents climats, différentes vies. Une vieille histoire de monde parallèle. Le poème est-il un passe-partout pour franchir ces invisibles barrières temporelles? Et pourquoi pas, dirait la fourmi de Desnos. Allongé dans mon lit, je rêve à des mondes parallèles. Continue d'ailleurs, page suivante, Thierry Roquet. Alors, je le suis, ce Thierry Roquet, intrigué par cette complicité. Je croise alors quelques oiseaux, le fantôme de Jack London, une grand-mère, un artiste art brut, une baleine échouée, deux vieux, un homme avec un nuage d'où il retire parfois un Boeing 747 d'une compagnie low cost, et d'autres personnages. Je n'imaginais pas que l'au-delà du boulevard périphérique cachait autant de surprises dans les ombres de ces quartiers. Des poèmes plutôt courts, pris au vol, dans cet incertain où se tissent les clins d'œil que se lancent imaginaire et réalité. Ces drôles d'entités qui se moquent de nous, pauvres humains. Je ne suis pas doté d'un fort sens commercial. Ceci dit, tout n'est pas rose par ici. On travaille, on vit, on se soumet. On travaille, on vit, on suit les ordres. On travaille, on vit, on se soumet. Dans un lieu confiné qui pue la sueur du pauvre, le mépris de classe, encore semblant au grand jour. Le reste du temps, on récupère à peine sa propre vie. Et vous voudriez qu'on fasse des messas? On y a froid dans ce livre. Il y a des sans-abri qui meurent dehors, un vieux de la vieille qui se souvient d'une rivière. Il y a des bus et des métros réguliers pour des gens réguliers, même trajet, mêmes horaires, même jour. Et Thierry Roquet dans tout ça, eh bien, j'écris de la poésie du quotidien, pour que de mes jours creux, il en reste une brindille de souvenirs ou un petit quelque chose d'irréductible. J'écris sur moi, pour que vous sachiez à quoi vous attendre si jamais on devait se rencontrer un de ces quatre, qu'on invite ainsi de le faire pour rien, et que ce soit en toute connaissance de cause. J'écris de la poésie verticale, pour que la chute soit plus brutale. Ligne 13 du métro, quand je vais à Paris, je la prends souvent cette ligne, mais direction nord plutôt. Rien ne m'interdit un prochain jour de la prendre direction sud et de découvrir à la périphérie du monde par la ligne 13 du métro. Thierry Roquet, aux éditions Gros Texte. Je vais vous parler aujourd'hui d'un nouvel éditeur de poésie. C'est assez rare pour qu'on puisse le souligner. Il s'agit des éditions L'Aïe des Ours, qui vient de sortir son premier ouvrage dans la collection Grand Ours. Et ces petits livres s'appellent Né arbre, et c'est écrit par Marie-Lise Leroux. Premier livre donc d'un nouvel éditeur de poésie. Grand sourire. Le livre s'ouvre sur un chêne et de page en page, le lecteur découvre des arbres, leur vie et surtout leur écho dans nos consciences et vies d'humains. L'arbre a passé un accord avec la lumière, entre ses branches, l'ombre des origines. On se promène ainsi parmi les arbres, sous les arbres, le long des arbres, et on se laisse surprendre par leur jeu de lumière, leurs traits, leur solitude ou leur bosquet. On les touche, on joue avec eux, on les observe, on écoute leur voix. Ils nous proposent leur attention, leur présence, leur combat aussi pour tenir debout. Fréquenter les arbres nous rend plus humains. C'est un livre à mettre aussi bien dans les BCD de nos écoles, les CDI de nos collèges et lycées, que dans les bibliothèques des grandes personnes. C'est un livre qui offre de l'apaisement. Je vous rappelle son titre, « Né arbre » de Marie-Lise Leroux, avec des œuvres de Thierry Tufigo. C'est sorti en 2020 chez un éditeur de poésie tout neuf qui s'appelle L'Aïe des Ours. You get home just about sundown and jump into the shower. And now you're starting to unwind. And you know you've only got an hour to comb your hair and put your good clothes on. Everything has got to be right, cause it's Saturday night. You call your best friend on the telephone to drop by and pick you up. And just about seven you hear him coming with his fiberglass mufflers on his pickup truck. Cause when you look good, ooh, baby, you feel good. Everything is gonna be right, cause it's Saturday night. Circle the Dairy Queen to see who is hanging out with you, elbow stuck out the window.